Vous pouvez ouvrir avec moi à nouveau l'évangile de Matthieu au chapitre 3, s'il vous plaît. Je poursuis la thématique « Il restaure mon âme ». On est bientôt à la fin de la thématique « Il restaure mon âme ». Et je termine avec, on a vu tellement de facettes, tout est en ligne, les PowerPoints, les enregistrements, tout est à votre disposition. Mais je termine avec cet aspect, cette question extrêmement importante de la repentance. Parce qu'en réalité, bien aimé, à la lumière des écrits bibliques, on se rend compte qu'il n'y a pas de restauration sans repentance. Il n'y a pas de restauration complète sans repentance complète. La question de la restauration fait pleinement partie, de la repentance, pardon, fait pleinement partie de la restauration. Et comme je vous l'avais dit pour la question du pardon, la question de la repentance aussi doit être abordée dans l'esprit de la grâce. C'est véritablement une grâce que Dieu accorde à tous et toutes. Lorsqu'il tend cette main, lorsqu'il lance cet appel de repentance, c'est parce qu'il vise un objectif bien précis, c'est de bénir au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et la repentance est réellement une grâce, c'est une grâce que de pouvoir revenir, c'est une grâce que, pas de revenir seulement quand on vient au Seigneur la première fois, quand on revient après des années d'errance, ou quand on n'était pas au Seigneur, ou quand on n'était plus au Seigneur, mais c'est aussi une grâce et c'est un principe, même enfant de Dieu, de savoir vivre avec un cœur honnête, avec un cœur qui sait revenir si nécessaire, avec un cœur qui sait faire le point, un cœur qui sait confesser, un cœur qui sait se repentir. Et la repentance est un principe du royaume de Dieu et c'est très important d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Matthieu chapitre 3, je relis le texte que j'avais pris avec vous il y a 15 jours, c'est simplement pour montrer que c'est un principe. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà le pourquoi de la repentance. Le royaume des cieux est tout proche de vous. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Et nous avons considéré la dernière fois en disant, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ce qui signifie, bien aimé, qu'avec le Seigneur, il n'y aura jamais de prescription. Le temps n'efface rien. Seule l'œuvre de Jésus à la croix a la puissance d'effacer ce qui doit être effacé, associé à ma repentance. Mais vous savez, le Seigneur, lui, il dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés lorsqu'ils ont été effacés et pardonnés. Amen. Par contre, ce qui n'a pas été réglé, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, le Seigneur saura toujours, par amour, mais il saura toujours ramener des dossiers et dire « ça, c'est pas réglé ». Et il ne faut pas que tu te trompes, mon frère, ma sœur. Le temps n'efface rien. Seule l'œuvre de Jésus et la repentance efface. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle toujours au plus vite à régler ce que nous avons à régler, soit avec Dieu, soit, on le verra dimanche prochain, à régler ce que nous avons à régler aussi avec des hommes. Il y a aussi le temps au sens de l'époque, de la condition. En ce temps-là, de quel temps parlions-nous ? Mais on parle du temps de la domination romaine. On parle d'un peuple qui est opprimé, qui est dans l'injustice, dans la souffrance, qui est dans les privations, qui est dans toutes sortes de manques, qui vit sous la domination romaine, mais aussi sous la lourdeur du pouvoir religieux des pharisiens. Un peuple qui est très mal conduit, qui est opprimé politiquement et qui est opprimé religieusement, spirituellement. Et dans ce contexte, Jean-Baptiste n'a pas dit... Bien sûr, on a de la compassion pour toutes les situations. Mais Jean-Baptiste n'a pas dit « Oh, vous inquiétez pas, on va prier, le Seigneur arrive, tout va s'arranger. » Mais oui, comme par miracle, comme par magie. Non, dans ce contexte, en ce temps-là, Jean-Baptiste leur dit « Repentez-vous. » Parce que mes blessures, mes souffrances sont une chose. Mon besoin de repentance en est une autre. Et il ne faut pas mélanger les deux. Et mes blessures ne peuvent jamais être un prétexte. Mes blessures, les péchés des autres ne peuvent jamais, ne doivent jamais être un prétexte, en vérité, pour dissimuler nos fautes derrière et dire « oui, mais lui, il a fait pire. Oui, mais si moi j'étais... Oui, mais vous comprenez, moi je suis comme ça, alors c'est normal que... » Et quand on fait ça, on tourne en rond. Le royaume de Dieu est tout proche. Et pourquoi est-ce que... Et c'est ce que dit le Seigneur au travers du prophète Osée. « Je voudrais restaurer mon peuple. » Le problème, c'est que le repentir se dérobe à mes regards. Ma blessure, ma souffrance ne pourra jamais être un prétexte pour ignorer ma propre nature, mes propres fautes, mes propres réactions inappropriées. C'est le principe, on avait dit, souvenez-vous, c'est le principe du 90-10. Même si l'autre, il a 90% de tort, même s'il y a des gens qui sont beaucoup plus sales que toi, de toute façon... Demande pardon à Dieu pour tes 10%. Et puis, va régler tes 10% avec qui tu dois les régler. Et si ça peut paraître dur, ben non, c'est, oui, c'est dur parce que ça touche à mon ego. Mais ce n'est pas dur parce que le Seigneur me dit, mais c'est parce que je voudrais te bénir. Il faut que tu aplanisses le chemin. Il faut que tu dégages le chemin de ton cœur parce que je veux absolument pouvoir passer et libérer des bénédictions dans ta vie, en toi, autour de toi. Et puis, c'est justement ça aussi qui fait que la repentance est réellement un message de grâce. C'est aussi le temps de Dieu. Pourquoi repentez-vous ? Parce que le royaume des cieux est proche. Alors, par contre, ce n'est pas le Seigneur qui va dégager la route. Ce n'était pas le roi avec son cortège de bénédictions. Les monarques de l'époque venaient en cortège et ils venaient chargés de bénédictions. C'était des caravanes entières qui venaient. Mais pour que les caravanes puissent atteindre et bénir, déverser leurs bénédictions sur les destinataires des bénédictions, il fallait que la route soit aménagée. Quand il y avait des creux, des trous, ben il fallait combler. Quand il y avait des obstacles, des pierres sur le chemin, il fallait les dégager, il fallait niveler. Et c'est dans ce sens... que Ésaïe disait, que Jean-Baptiste reprend cette parole, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez son sentier, en d'autres termes, dégagez le chemin de vos cœurs, tout ce qui peut faire obstacle dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos pensées, dans vos relations, faites de la place, faites du ménage, aménagez la route au Seigneur, il fallait dégager le chemin, il fallait enlever les pierres, et ça, ça ne se fait pas une seule fois au début de ma vie chrétienne, c'est aussi une façon de vivre. Je veux, Seigneur, que la route de mon cœur soit constamment dégagée pour que tu puisses passer comme tu veux, comme tu sens, comme bon te semble, quand tu le veux, pour déverser les bénédictions et faire l'œuvre que tu veux faire en moi et autour de moi. La repentance amène d'innombrables bénédictions. Et c'est pour ça que la repentance, en réalité, même si ça peut paraître rude, en réalité est une véritable grâce. Amen. Ça va, tout le monde est revenu dans la thématique. Maintenant, je ne sais pas si ça c'est toujours bien enseigné, mais c'est extrêmement important de comprendre ce qui constitue une authentique repentance. La repentance, à la lumière des Écritures, est constituée de quatre éléments. Comme les pieds des chaises sur lesquelles vous êtes assis. S'il en manque un jour ou l'autre, ça basculera d'un côté. Il y en a quatre, Ce n'est pas pour rien, c'est pour que ce soit bien stable et qu'ensuite on puisse construire dessus. Quatre éléments. Je vous les ai mis ici, on va en voir deux ce matin et deux dimanche prochain. Les éléments d'une authentique repentance, quatre étapes, quatre fondements, quatre piliers, quatre éléments qui se trouvent être la prise de conscience, la conviction, qui va entraîner une confession sincère, qui va amener, dans la mesure du possible, je développerai ça la semaine prochaine, une réparation, quand il y a moyen de réparer, et puis qui va emmener une métanoïa, un authentique changement d'état d'esprit, de mentalité, d'organisation, un véritable changement d'attitude. Pour ce matin, je parle avec vous de la prise de conscience et de la confession. Toute repentance authentique commence toujours par une authentique prise de conscience, par une conviction. Une conviction, en d'autres termes, on va appeler un chat un chat. Il faut savoir regarder les choses, les situations, savoir regarder en soi-même avec honnêteté, avec vérité. Vous savez, le fils prodigue, avant de rentrer à la maison du Père, où il a été tellement béni, souvenez-vous, où il a expérimenté la restauration et la bénédiction, au-delà de ce qu'il pouvait penser ou imaginer. Avant de rentrer à la maison du Père, il est rentré en lui-même. Et il a fait le point. C'est écrit, Luc 15, 17, « Étant rentré en lui-même ». Il a fait ce constat honnête de la situation. C'était plus, c'est pas la faute de mon frère, c'est pas la faute d'un tel, c'est toujours la faute des autres. C'était pas lui, c'était pas elle, c'était pas machin. Oui, mais j'ai pas eu de chance. Oui, mais je vais. Oh, ça va, c'est bon. Il a regardé au fond de son cœur. Il a dit : voilà qui je suis. Voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait. Même si les autres ont fait pire, voilà ce que moi j'ai fait. Et sur cette base-là, il prend la décision de faire une démarche concrète, il va aller vers la maison de son père, il y aura une confession, il y aura une restauration puissante, il y aura réparation, il y aura un profond changement, mais tout commence toujours par une prise de conscience, par une conviction que ce que nous avons été, que ce que nous avons fait, que ce que nous avons dit, que la façon dont nous avons pensé, raisonné n'était pas la bonne et que ça doit changer, il faut s'en repentir, la façon dont nous avons réagi, etc. C'est quoi finalement le péché ? Le péché, frères et sœurs, il y a plusieurs termes dans les Écritures, on pourrait le définir de différentes façons, mais ce n'est pas mon sujet ce matin. Je trouve que David le résume très bien dans son psaume de repentance, il y a le psaume 32, le psaume 51, dans le psaume 51. David dit « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Il n'y a pas « oui, c'était pas si grave, il n'y a pas de machin, ouais, mais le pasteur, il dit ça, ouais, mais l'autre, il m'a dit si, etc. Oh, » oh, c'est bon. Seigneur, qu'est-ce que toi, tu dis de cette attitude ? Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur mes paroles ? Qu'est-ce que tu dis sur ma façon d'être ? Qu'est-ce que tu dis de ça ? Et si le Seigneur dit « ça, ce n'est pas ma nature, le péché, c'est ce qui est contre la nature de Dieu. » Et si Dieu dit « ça, ce n'est pas moi », ok Seigneur, il n'y a pas de oui mais. Un jour, un pasteur américain, que je connaissais, on avait des bonnes relations, puis un jour en parlant, on travaillait pendant un temps dans la même église, et ce pasteur il me dit, dites-vous les Français, vous êtes extraordinaires, parce que vous arrivez toujours à contourner les trucs, vous arrivez toujours à dire non sans dire non. Je dis « Ah ouais, et comment on fait ça ?» Il me dit « Vous vous en rendez pas compte, hein. Vous dites toujours « oui, mais ».« Oui, mais », c'est une façon polie de dire non. Le fils prodigue, il n'a pas dit « oui, mais ». David n'a pas dit « oui, mais ». David, il a dit « oui, je suis cet homme-là ». Le fils prodigue l'a fait, le publicain dans le temple l'a fait. Le péché, c'est « Seigneur, j'ai fait ce qui est mal » à tes yeux, sans notion de grand ou de petit péché. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est aussi cette prise de conscience des conséquences néfastes, destructrices du péché dans nos cœurs. Ésaïe 59, est-ce que je vous l'ai mis? Oui. Ésaïe 59 dit, mais ce sont vos péchés. Ce n'est pas que Dieu, à un moment, ne nous aime plus ou ne veut pas. Il n'a pas changé, il ne change jamais. C'est juste le Seigneur dit, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos fautes qui l'empêchent de vous écouter. Je prends conscience des conséquences. J'ai aussi la conviction, je prends conscience que ça ne sert à rien de dissimuler. La première chose qu'Adam a fait avec Ève, mais ça on peut les comprendre, eux ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas la révélation au sens où nous on l'a maintenant, d'ailleurs ils n'avaient aucun écrit encore, il n'y avait rien du tout eux. La première chose que Adam a fait, le réflexe, par peur, une fois qu'il a vu sa nudité spirituelle, il a été se cacher, il a cherché à se dissimuler. Mais au fur et à mesure des écrits bibliques, on se rend compte. Chercher à dissimuler quoi? Qu'est-ce qu'on va dissimuler aux yeux de celui qui sait ce qu'il y a dans mon cœur, même mieux que moi-même? Psaume 139. D'un Dieu qui sait pertinemment ce qui va sortir de ma bouche avant même que ça sorte. D'un Dieu qui savait même que j'allais pécher avant même moi que je sache que j'allais pécher. Où fuirais-je loin de toi, Seigneur? Où irais-je loin de ton esprit? Tu sais tout. Tu as tout vu. Pourquoi est-ce que je vais perdre du temps à essayer de discutailler, de minimiser, de dissimuler? Ça, c'est aussi une conviction, que ça ne sert à rien du tout d'essayer de dissimuler quoi que ce soit. Il faut simplement être là, un cœur vrai devant Dieu. De toute façon, il a lu, il a vu. Et il attend cette confession, et je vous expliquerai après pourquoi il faut absolument confesser à Dieu. Et même quand on essaye de dissimuler, David a essayé de dissimuler son péché pendant un temps. Mais il a quand même fini par écrire psaume 51, toujours. Mais au final, mon péché est constamment devant moi. Alors où irai-je, Seigneur, psaume 139, où fuirai-je loin de toi, loin de ton esprit? Ça ne sert à rien de se dissimuler derrière les fautes des autres. Adam et Ève, Adam s'est dissimulé derrière Ève. Là, c'est toujours la faute de ma femme, c'est tellement facile. « Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. » Et la femme se disculpe derrière le serpent. Mais bien sûr, c'est toujours la faute du diable. C'est toujours. Non, il n'y a pas un démon de ceci, il n'y a pas un démon pour l'alcoolisme, il n'y a pas un démon pour la cigarette, il n'y a pas un démon de ceci, il n'y a pas un démon de cela. Ça, ce sont des doctrines déviantes, il n'y a pas ça dans la parole de Dieu. Bien sûr, je crois au monde spirituel ténébreux, on est d'accord, hein. Mais il n'y a pas tout ça dans la parole. C'est trop facile. C'est toujours la faute. Il faut toujours... Repentez-vous. Réglez ce que vous avez à régler. Saül a essayé de se dissimuler. Il s'est excusé devant Samuel. C'était la faute du peuple. J'ai observé la parole de l'Éternel, hein, Samuel 15. Tout ce qui a été fait comme il faut, tout ce qui a été dévoué par interdit... Nous l'avons dévoué par interdit. Mais pour ça, mais le peuple. Ah, ben oui, c'était la faute du peuple. C'est toujours la faute de l'Église. C'est toujours la faute de ma femme. C'est toujours la faute du pasteur. C'est toujours la faute de quelqu'un. Le pharisien dans le temple, il se cache derrière la faute du publicain. Je te rends grâce, ô mon Dieu. Moi, je jeûne deux fois à la semaine. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas jeûner. Je dis que ce n'est pas un moyen de justification. Je donne la dîme de tous mes revenus. Jésus n'a pas dit qu'il ne fallait pas donner sa dîme. Il a dit que ce n'était pas un moyen de justification. Et Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain qui est ravisseur, voleur. Le fils aîné a essayé de se dissimuler aussi, derrière les fautes de son frère et prodigue. Voilà, Père, ça fait tant d'années que je te sers. Un jour, il y a un frère, il m'a dit comme ça, il m'a dit, moi, il est sérieux, hein, j'ai cru que j'allais être obligé de lui chanter la gloire en 5 bémols, hein, à toi la gloire en 5 bémols. Il m'a dit, moi frère, en 30 ans, sauf 4 forces majeures, si j'avais pas 41 de fièvre, j'ai jamais manqué une réunion. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas venir aux réunions. Je dis, mais vous savez frère, comment ça se fait avec tout ce que vous avez entendu? Pourquoi vous n'en avez pas vécu un peu plus ou mis un peu plus en pratique? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez fait de tout ce que vous avez entendu? Je ne comprends pas. Après, il ne voulait plus me parler. Pas compris. Il y a tant d'années que je te sers. Ah oui, non, mais ça, c'est pas. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas servir Dieu. Hein. Je dis que ce n'est pas un moyen de justification. Ça ne sert à rien de se justifier. Isaïe 64 dit, notre justice, toute notre justice, est comme un vêtement souillé devant toi, Seigneur. Galates chapitre 5, folie de ceux qui cherchent à se justifier. Je suis peut-être comme ça, mais au moins, moi, je fais ça, parce que par rapport à la loi de Dieu, je ne suis peut-être pas clean là, mais là, je suis très, très bien. Et l'apôtre Paul dit, mais vous êtes inconscient, Galates. Vous êtes séparés de Christ. Chaque fois que vous cherchez une justification dans la loi, vous vous coupez de la grâce. Mais si je me coupe de la grâce, je coupe tout. Je perds Christ, vous êtes séparés de Christ. Donc, chercher à se justifier, c'est une pure folie, c'est du suicide spirituel. C'est du suicide spirituel. Tout ce que nous pouvons faire valoir devant Dieu ne vaut rien. Il n'y a que le sang de Jésus, la justice de Jésus, l'amour de Jésus, la compassion de Jésus, associés à ma repentance, qui vont m'accorder un plein pardon et une pleine restauration. Il n'y a que ça et rien d'autre. Tout le reste est une perte de temps totale. Et puis, toujours dans cette conviction, vient la conviction, puisque j'ai la conviction, la certitude que ça ne sert à rien de se dissimuler, ça ne sert à rien d'essayer de se justifier. J'ai la conviction de mon besoin, je vous l'ai mis ici, conviction du besoin de la grâce suffisante du Dieu rédempteur, c'est-à-dire du Dieu qui me rachète de mes fautes. La miséricorde, dit le psaume 130, la miséricorde se trouve auprès de l'Éternel et la rédemption, le pardon, se trouve auprès de lui en abondance. Alors, puisque le pardon est auprès de lui en abondance, ben, je n'ai pas de temps à perdre ailleurs. Je sais ce que j'ai à faire. Et je sais que c'est lui. Alors là, j'ai mis que les références pour ceux qui le veulent. Je ne pouvais pas mettre tout ça, il y en a beaucoup de trop. Mais cette conviction aussi, cette certitude, il y a une multitude de promesses dans la parole de Dieu au sujet du pardon qui nous est acquis, du pardon qui nous est réservé. Ce sont des promesses. Psaume 130, le pardon se trouve auprès de toi en abondance. Dieu dit au travers du prophète Ésaïe, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, Ésaïe chapitre 1er, s'ils sont rouges comme le cramoisi, pourquoi ? Parce qu'en réalité, ça désigne une tache qui imprègne et qui est tellement puissante qu'elle est indélébile. Et il n'y a que le sang de Jésus qui puisse effacer. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, vous deviendrez plus blanc que la neige. Il est simple l'évangile ou il est... Bien sûr qu'il est simple. Ésaïe 57. 55, pardon, verset 7, c'est ici en bas. Ésaïe 55, 7. Venez, plaidons, dit le prophète. Revenons, retournons à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le péché est une affaire très sérieuse. Et jamais le Seigneur ne sera d'accord avec le péché. Il ne le cautionnera pas, il ne le justifiera pas. Et il n'y aura pas de... Non, c'est très grave puisque ça a nécessité la mort de Jésus à la croix. Mais... Combien de fois, lorsqu'on a échoué sur un point, sur un autre, une fois, deux fois, trois fois, voire plus, voire beaucoup plus, et qu'on est retombé dans des choses, et on avait dit à Dieu, « Ah Seigneur, cette année en 2026, je te promets !» Frères et sœurs, ne faites jamais de promesses à Dieu. Seule sa parole est fiable. Seule sa parole est éprouvée. La nôtre, non. Si vous faites des promesses à Dieu, vous vous condamnez vous-même. C'est compter sur nos propres forces. Et on avait promis à Dieu. Et comme on lui a promis, on s'est trouvé d'autant plus disqualifié. On s'est trouvé d'autant plus à la ramasse, d'autant plus honteux. Et puis au bout de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, je ne sais. Combien de fois l'ennemi est venu et nous a dit « Plus de rédemption pour toi auprès de Dieu. C'est terminé. » Mais Ésaïe 55 me dit « Béni soit son nom. Venez, plaidons. Revenons encore à notre Dieu parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. » Amen. Matthieu chapitre 3, nous venons de le lire. Le roi, pourquoi venir ? Pourquoi se repentir ? Parce que le royaume de Dieu est proche, il est là, il est prêt. Jean 1, 1er épître de Jean, pardon, chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, c'est simple. Si nous confessons, raconte pas ta vie, ça sert à rien. Dis ce que tu as à dire à Dieu. David dit bien dans le psaume 32, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et bien souvent, on parle, bien aimé, on est pas sage, on parle de choses à des gens qui ne sont pas capables d'entendre, etc. On se confie, et on n'a pas à se raconter des trucs les uns aux autres. On ne fait pas d'étalage. Dis à Dieu ce que tu as à dire, point. Puis le jour où tu as quelque chose à régler avec un frère, dis ce que tu as à dire à ce frère ou à cette sœur, point. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voilà, c'est aussi simple que ça. On y croit ou on n'y croit pas. On le saisit par la foi et on avance, ou alors on va tourner en rond. Puisque j'ai terminé avec ce texte sur ce point, si nous confessons nos péchés, c'est le deuxième axe de mon message pour ce matin. Puisqu'il y a la conviction, vient ensuite la confession. La confession, c'est la deuxième étape, c'est le deuxième élément indispensable de toute repentance authentique. Lorsque le fils prodigue, je recommence avec lui, est rentré en lui-même, il a fait ce point. Il ne s'est pas contenté de dire « Ah là là, quand même, c'est vrai que ça ne va pas bien. Il faudrait peut-être qu'un jour, je retourne à l'église. Ouais, je sais qu'il faudrait que j'y retourne. Ah, il faudrait peut-être vraiment que je reprenne ma communion avec Dieu. Ouais, je sais, il faudra que je le fasse un jour. Ouais. Non. Et au bout d'un moment, le prodigue, il a dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père ». Et je lui dirai, il a fait un bilan honnête et ça a été suivi d'actes concrets. Le premier de ces actes, c'est la confession. Il est venu vers son père, il a fait la démarche, il n'a pas dit je le ferai la semaine prochaine. Demain, c'est le mot du diable. Le diable aime beaucoup quand vous dites, oh, allez, c'est pour demain. Allez, la semaine prochaine, le mois prochain, là je suis un peu occupé, le mois prochain, je règle ça. Promis Seigneur! Le diable aime beaucoup tout ce qu'on remet à demain, parce que demain appartient à Dieu, mais certainement pas à nous. Et on ne maîtrise pas demain. Donc le diable, il aime bien chaque fois qu'on va remettre à demain, puisqu'il sait que demain, on ne le maîtrise pas. Il sait qu'il peut s'en passer des choses d'ici demain, une semaine, un mois, un an. Il sait tout ça. Il aime bien quand on dit demain. Le fils prodigue, il sait, dans sa conviction, il s'est levé, il a été vers son père. Et le fils lui dit, mon père, père, c'est Dieu dans la parabole. Mon père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et sur la base de cette simple confession, l'œuvre de restauration s'est mise en marche dans sa vie. Il ne s'est pas contenté d'être conscient de son échec. Il ne s'est pas contenté d'être conscient qu'un jour il faudrait que ça change. Il n'est pas revenu en catimini discrètement, là, comme ça, dans un coin de la maison, comme si de rien n'était. Il a regardé son père en face. Il a dit, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai fait, je te demande pardon. Je ne comprends pas ce qu'on ne comprend pas dans l'évangile. C'est tellement simple. Et sur cette base-là, il a été restauré. Luc chapitre 18, alors que le pharisien est là dans le temple, en train de se justifier, de salir le publicain. Le publicain, dit Jésus dans cette parabole, le publicain est là, il est à genoux, il est la face contre terre, il se frappe la poitrine. Jésus dit, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Et il dit, sois apaisé envers moi, ô mon Dieu, je suis un homme pécheur. Il l'a dit, il l'a formulé. Des mots simples, mais des mots clairs, mais des mots nécessaires. Parce que ça fait partie de la puissance de nos paroles. Ce que nous disons peut réellement déverrouiller des situations ou verrouiller des situations. Je ne fais pas une étude ce matin sur la puissance de nos paroles, c'est l'objet de toute une étude aussi à la lumière de l'Écriture. David aussi, il a mis des mots. Psaume 32, « Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai dit, je ne cacherai pas ma faute à l'Éternel. J'ai dit, j'avouerai à l'Éternel mes transgressions. Et tu as effacé la peine de mon péché. La confession, bien-aimée, est extrêmement importante dans toute repentance authentique parce qu'elle est libératrice. Confesser, c'est homologueo dans le Nouveau Testament, dans le grec, qui signifie déclarer, avouer, se reconnaître, dire ouvertement. C'est de dire à Dieu ce que j'ai à lui dire. Et ensuite, on le verra la semaine prochaine, de dire à mon épouse, à mon époux, de dire à un frère, à une sœur, à je ne sais, ce que j'ai à lui dire. C'est ça, la véritable confession. Pourquoi est-ce qu'il faut faire connaître ? Je viens de dire que dans le psaume 139, David avait été clair, « Ô Dieu, avant même que je n'ouvre la bouche, tu sais. Ô Seigneur, avant même que, de toute façon, tu savais dans ton omniscience, dans ta préscience. » Pourquoi faire connaître ? Dieu n'est-il pas omniscient ? Dans son omniscience, il sait tout. N'y a-t-il pas aussi de la préscience ? Il sait par avance. Bien sûr que si, sa préscience est dans son omniscience. La préscience est une facette de son omniscience. Dieu devait-il être informé de quoi que ce soit ? Puis-je lui dire quelque chose qu'il ne sache pas déjà ? Surtout que, après être tombé avec Bathsheba, c'est Dieu qui, dans sa grâce, envoie Nathan vers David qui essayait de se dissimuler. C'est Dieu qui, dans sa grâce, envoie le prophète Hanani vers Asa qui est tombé dans un sombre compromis avec le roi de Syrie. C'est Dieu qui, dans sa grâce, envoie le sacrificateur Azaria vers le roi Ozias qui est en train de rentrer dans une voie d'orgueil et d'insoumission qui lui coûtera pas cher mais qui va tout lui coûter, il perdra tout. C'est Dieu qui, dans sa grâce, envoie Samuel auprès du roi Saül. C'est toujours par la parole que Dieu amène une conviction et qu'il cherche à tirer de nous une confession. Dieu devait-il être informé de quoi que ce soit ? Bien sûr que non, puisque c'est lui, ayant vu que ses bien-aimés étaient en train de se cacher, de se dissimuler, c'est lui qui a envoyé son prophète, ses prophètes, les prophètes parlent de la part de Dieu, ils véhiculent la parole de Dieu, c'est par sa parole qu'il a été les récupérer dans sa grâce, enfin pour ceux qui ont accepté de se laisser récupérer. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire connaître ? Parce que la confession est libératrice. La confession est libératrice. Elle nous libère du poids, à la fois du poids du péché, parce que le péché est destructeur, quelle que soit sa forme. Et frères et sœurs, il faut être clair, je sais qu'on est très fiers d'être évangélique, je sais pertinemment qu'on est très fiers de ne pas être catholique, mais on a aussi des raisonnements inconscients, vous savez, on a aussi notre classification de péché à nous. Et je suis désolé, le péché, ce n'est pas seulement ceux qui ont un petit problème avec, la bibine, ceux qui n'ont pas réglé la question de la cigarette ou les gens qui consomment de la pornographie. Le péché, c'est beaucoup plus que ça. Et ce n'est pas juste des grosses choses phares en se disant « Oh là là, moi, j'ai tué personne, je n'ai pas volé. » Donc moi, ça... Non, 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 le péché, c'est beaucoup plus profond que ça. Et il faut comprendre que le péché, lorsqu'il n'est pas mis en lumière, il va détruire ma force spirituelle. Il détruit ma force intérieure. Il détruit ma qualité de vie. Il y a une sécheresse intérieure qui arrive. Et la joie, au fur et à mesure que des situations ne sont pas réglées, la joie intérieure décline, décline, décline jusqu'à un moment où on arrive même à perdre la joie de notre salut. On en perd notre paix. On perd la qualité de vie intérieure. Comme le dit le prophète Ésaïe, on s'est trouvé coupé de la présence de Dieu. On est là, mais ça fait peut-être tellement longtemps qu'on n'a pas ressenti la vie, les fleuves d'eau vive qui coulaient à l'intérieur de nos âmes, de nos êtres. On a été coupé de la présence de Dieu, coupé de ses ressources. C'est pas que Dieu ne m'aime pas. C'est pas qu'il ne m'aime plus. S'il me dit, repens-toi. Dis-moi ce que tu as à me dire. David dit, tant que je me suis tu. Pendant plusieurs mois, David a essayé de dissimuler sa faute. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Ta main, ce n'était pas seulement le poids du péché qui nous assèche littéralement, qui nous détruit intérieurement, qui nous appauvrit, qui nous rend faibles et vulnérables. Ce n'était pas seulement le poids du péché, c'était aussi au bout d'un moment la main de Dieu qui mettait un poids sur David pour qu'il comprenne ce qui n'allait pas et qu'il règle ce qu'il avait à régler. Parce que derrière, encore une fois, qu'est-ce qu'il voulait le Seigneur ? Mais il voulait le restaurer. Il voulait le bénir. Amen. La confession est libératrice. Ta main s'apesantissait sur moi et tu as effacé la peine de mon péché, dit le psaume 32, les versets 3 à 5. Et puis, elle est aussi, je termine avec ça, la confession, bien-aimée, elle est aussi libératrice d'un énorme danger qui a eu raison de plus d'un homme dans la parole de Dieu. Ça s'appelle l'orgueil, l'endurcissement, le refus de regarder les choses en face. Continuer à faire comme si de rien n'était. S'endurcir, c'est la voix de Saül. Oui, Samuel, j'ai péché, mais le peuple, on ne va jamais y arriver comme ça. Et pourquoi le Seigneur demande cette confession ? Pourquoi est-ce que ça peut paraître si dur de se repentir ? Alors qu'en réalité, la repentance est une grâce. Pourquoi est-ce que c'est dur à l'intérieur ? Ben, ce n'est pas compliqué. C'est parce qu'en ayant institué la repentance, en ayant institué la confession, le Seigneur cherche à me protéger moi-même d'une voie insidieuse et destructrice qui s'appelle l'orgueil. Il cherche à me préserver de la dissimulation et de l'endurcissement, de la dissimulation parce que tant que le péché, j'essaye de le couvrir et de le camoufler, il peut proliférer tranquillement. La lumière de Dieu ne l'a pas jugé encore. Et puis aussi, libératrice de l'orgueil, de l'ego, parce que c'est un moyen de laisser notre ego se briser aux pieds du Seigneur. Le psaume 51, c'est encore David qui dit « Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un cœur brisé, c'est un cœur contrit, un cœur brisé et contrit. Tu veux, Seigneur, un cœur brisé et contrit. » Contrit, littéralement, d'Aka, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, ici, qui signifie littéralement courbé, effondré. C'est mon âme qui se courbe devant lui, qui reconnaît, qui admet, qui confesse, parce que je sais qu'il va effacer le poids de mon péché et qu'il va pouvoir me restaurer totalement et complètement. Et puis, pourquoi cette confession ? Elle nous libère, évidemment, du poids du péché. Elle nous libère de la main de Dieu qui peut s'apesantir sur nos vies par amour. Et puis, elle nous libère aussi de ce piège pernicieux qui est l'orgueil. Et bien d'autres y sont tombés. Je précise quand même sur ce point. Saül n'était pas une erreur de casting. Saül était choisi de Dieu, il était oint par Dieu, il était promis à un grand règne, il n'était pas obligé de finir comme il a fini. Salomon n'était pas obligé de finir comme il a fini. Asa n'était pas obligé de finir, Ozias n'était pas obligé, Lot n'était pas obligé, Samson n'était pas obligé, aucun n'était obligé de finir comme ils ont fini, comme ils ont terminé. C'est simplement, ce n'étaient pas des erreurs de casting. Ce sont des hommes de Dieu. Pour certains, bien-aimés, des hommes de réveil. Asa était un homme de réveil. Ozias était un roi de réveil. C'était pour certains des hommes de réveil. Mais ils ont refusé de se repentir au moment où ils en avaient l'occasion. Et il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et c'est ainsi que l'orgueil soit peut-être jugé dans ma vie, ou alors je peux en être délivré. Et puis c'est aussi un moyen, enfin, de démontrer que notre cœur est vrai devant Dieu. Le Seigneur, ce qu'il veut, lui, c'est ce que dit David dans le psaume 51. Ah, je ne l'ai pas mis ici. C'est pas grave. Toujours dans le psaume 51. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Confesser, c'est aussi un moyen, en disant les mêmes choses que Dieu, c'est une façon de démontrer que notre cœur est vrai devant Dieu, c'est une disposition de cœur qui est agréable au Seigneur. J'en reste là pour ce matin.
sinon ce serait beaucoup trop long. La semaine prochaine, on verra les deux autres éléments. On parlera de la réparation. On fera la différence entre la réparation, la réconciliation, sont deux choses différentes, et les relations, qui sont deux choses différentes. Restauration, réparation, réconciliation, relation, sont des choses totalement différentes, mais ça, on en parlera la semaine prochaine, avec le changement de cœur. Mais aujourd'hui, simplement comprendre cette grâce de Dieu lorsqu'il nous appelle à la repentance, lorsqu'il envoie sa parole, lorsqu'il veut éclairer nos âmes, lorsqu'il veut mettre des convictions en nous, lorsqu'il attend des confessions honnêtes, dans le secret bien sûr, ça ne doit pas se faire en public, ce qui est du domaine du privé doit rester dans le privé, dans la confession, dans la communion avec Dieu. Et ça, le Seigneur attend ses convictions, ses confessions, parce qu'elles sont libératrices et ce sont des chemins de bénédiction. Voilà pourquoi le message de la repentance est une authentique grâce. Amen. On se recueille ensemble, bien-aimés. Merci pour votre attention. Seigneur, je veux te dire merci pour qui tu es, d'être un Dieu aussi grand, aussi parfait, aussi saint, aussi puissant, aussi juste, aussi redoutable, aussi omniscient et aussi prescient. Et que malgré tout ce que tu as vu venir dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos situations, dans nos manquements, dans nos loupés, dans nos ratages, dans nos échecs, nos fautes, nos péchés, nos manquements, peu importe le mot qu'on mettrait dessus, Seigneur, toi, tu savais d'avance, tu as tout vu venir. Et pourtant, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu envoies ta parole, de ce que tu envoies un message d'amour, tu envoies une promesse de pardon, une promesse de bénédiction, une promesse de restauration. Seigneur, merci de ce que, à la croix, Jésus nous a acquis, le pardon que nous ne pouvions pas acquérir. Tu nous as acquis ce pardon et tu nous demandes de venir le chercher maintenant auprès de lui, auprès de Jésus à la croix, dans la conviction, dans la confession, avec un cœur humble et repentant, avec un cœur vrai devant toi. Et je te bénis, Seigneur, de ce que tu n'es pas là pour juger, tu es là pour pardonner, tu cherches des cœurs repentants parce que tu as soif de parler, tu as soif de bénir, tu as soif de pardonner, tu as soif de restaurer, tu as soif de déverser ton esprit. Et je te bénis de ce que tu as bien plus envie de nous bénir que nous avons envie d'être bénis. Seigneur, merci pour cet immense amour, cette grâce incomparable, cette fidélité de ta part. Touche nos cœurs encore, convainc-nous par ton Esprit Saint, Seigneur, parce que c'est notre vie, c'est notre qualité de vie qui en dépend, dès maintenant, dès ici-bas, et pour l'éternité, que ton nom soit glorifié. Sois béni, Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça va, on est dans les temps. Merci pour votre patience, votre attention. Je vais vous faire simplement, tu peux lancer le PowerPoint d'annonce. Je vous fais quelques communications, je vous les fais tout de suite pendant que j'ai la parole, bien aimé.